نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala le cours qu'on a commencé hier, et dont le sujet est le mawdou' wa minhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah. Al minhaj, comme on a dit, c'est la voie, at-tariq. Al-anbiya, qui est le parole de Nabi, qui sont donc les envoyés. Dans quoi cette voie? C'est dans l'appel à Allah Azzawajal. C'est-à-dire comment ils ont fait la da'wah, comment ils ont appelé Allah Azzawajal, quelle était leur méthode, quel était leur chemin dans cela. Donc hier on a parlé et on a développé le sujet, et aujourd'hui Inch'Allah on continue, sachant que le point fondamental qu'on avait vu hier, et qui était que les envoyés, ils ont commencé par ce qui était le plus important dans leur da'wa, c'est-à-dire dans leur prêche. Et ce qui est le plus important, comme on a dit, c'est commencer par la croyance. Car c'est le plus important au niveau de la da'wa, au niveau du prêche. Les envoyés, tous les envoyés, du début ou du premier jusqu'au dernier, jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé leur da'wa avec la croyance. Ils ont commencé à concrétiser le tawhid, c'est-à-dire non, l'unicité d'Allah Azzawajal, qui est en réalité la croyance de l'islam. La véritable croyance de l'islam, c'est le tawhid. Rien d'autre. C'est l'unicité d'Allah Azzawajal. Que ce soit dans son adoration, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans ses noms et ses attributs. Et on avait vu hier Al-Aqsam. Et on avait vu ce que comportait donc le Coran. Aujourd'hui donc, on va continuer sur ce sujet, sachant que pour ce qui est des prophètes, Allah Azzawajal, il en a envoyé nombreux. Il est venu dans un hadith qui a été authentifié par certains savants, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, ils ont été au nombre de 124 000. Ils ont été au nombre de 124 000. Et sur ces 124 000, il y a eu 315 prophètes, sachant que beaucoup de savants ont fait la différence entre Ar-Rasoul, celui qu'on appelle Ar-Rasoul, et celui qu'on appelle An-Nabi. Et beaucoup de paroles ont été dites sur ce sujet, sachant que la parole la plus forte est celle qui dit que An-Nabi, c'est celui donc qui va faire la da'wah, il va lire Ar-Risala, mais sur une sharia qui a déjà été présente. Alors que Ar-Rasoul, il va venir lui avec une nouvelle législation. On a vu hier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a nommé les envoyés, il a dit qu'ils sont les frères du terme. Quel est le terme qu'on avait dit hier? Qui c'est qui s'en rappelle? Hein? Hallat. Et on avait dit Hallat, qu'on avait expliqué lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ummatuhum shatta wa dinuhum wahid. C'est-à-dire donc, que leurs mères sont différentes, c'est-à-dire qu'ils en ont plusieurs, mais leur père il est unique, il est un seul. Et en vérité, le père, c'était en réalité l'aqida, c'était en vérité la croyance, le din, les bases de la religion. Donc, pour ce qui était de la mère, c'était, ou les mères, c'était le kinaya, c'est une métaphore pour exprimer ou pour dire les sharia, ou on va dire les législations qui ont été différentes. Donc, un rasoul, celui qui n'a qu'une législation, qui est nouvelle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont précédé. Par contre, un nabi, lui, il vient sur une législation qui est déjà présente, donc il n'en vient pas avec une nouvelle législation, mais il fait le même travail que le prophète par rapport donc au tablir, par rapport donc à la transmission. Également, on avait vu que... Et Lorsque donc des envoyés, notre croyance par rapport aux envoyés, c'est qu'on croit à tous les envoyés. Taïf. Il y en a ceux qui ont été cités dans le Coran et ceux qui n'ont pas été cités. Parmi ceux qui ont été cités, il y en a eu au total 25. 25 envoyés qui ont été cités dans le Coran. Le premier des envoyés, c'était Nuh, alayhi salam. Et le dernier des envoyés, c'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa rusulan qasasnahum alayka min qabl, wa rusulan lam naqsushum alayk. C'est-à-dire donc, des envoyés dont nous avons fait part de leur récit avant, et des envoyés dont nous ne t'avons pas fait part de leur récit. Et la croyance donc, qu'on doit avoir par rapport aux envoyés, c'est que l'on croit en tous les envoyés. On n'a pas le droit de faire la différence. Si maintenant, un musulman fait une différence entre un prophète, par rapport, donc, on dit la différence par rapport à la foi en lui, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est, ou qu'il ne croit pas, dans ce cas-là, qu'il est un messager, alors, à partir de là, il n'est pas considéré comme musulman. Ça remplit même le Rasoul. Ça remplit dans le chapitre de la foi aux envoyés. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle un verset dans un verset du Coran, qui est le suivant. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ici donc, pour ce qui est de l'explication de ce verset, ceux qui ont voulu renier Allah et ses prophètes. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. Ils veulent donc faire la différence, différencier franchement entre Allah et son prophète. Et ils disent, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. C'est-à-dire nous croyons en certains et nous délaissons certains. Sinon nous croyons en certains. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ils veulent donc prendre entre eux cette croyance, c'est-à-dire le fait de croire en certains et délaisser certains. Pour, par rapport à la croyance, c'est de prendre un chemin. Et Allah Azza wa Jalla dit ce qu'elle dit par rapport à ça, elle a dit Oulaïka humul kafirun haqqa. Ce sont eux les véritables mécréants. Donc ça, c'est une preuve. On n'a pas le droit de faire la différence par rapport aux envoyés. Qu'est-ce que veut dire donc ce verset du Coran? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallam Allah. C'est-à-dire donc, ces envoyés dont nous avons fait donc préférence les uns sur les autres. Ces envoyés dont nous avons fait préférence les uns par rapport aux autres. Donc il y a une préférence qui a été faite par rapport aux envoyés. Et l'autre verset qui est celui-là, la nufarriqu bayna ahadin min ar-rusuli. La nufarriqu bayna ahadin min ar-rusuli. C'est-à-dire nous ne faisons pas la différence entre les envoyés. Savant donc ils l'ont expliqué, ils ont fait le rapport entre ces deux versets. Pour ce qui est du premier verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a donné donc des choses à certains envoyés qu'il n'a pas donné aux autres. Vous voyez, comme le fait qu'il a parlé comme il est dans le verset, même kallama Allah, c'est-à-dire ce que Allah Azza wa Jal, il leur a parlé. Donc celui Allah Azza wa Jal qui il a parlé directement, bien entendu, il va avoir un degré au-dessus, etc. Donc des préférences qu'Allah Azza wa Jal a données. Pour ce qui est de l'autre verset, la nufarriqu bayna ahadin min ar-rusuli, c'est-à-dire nous ne faisons pas la différence entre les envoyés, c'est par rapport aussi à la croyance. Donc on n'a pas le droit de faire la différence dans la croyance. C'est-à-dire, contrairement aux juifs, les juifs qui ont fait la différence, qui ont cru donc à Moïse, lorsque Isa est venu, ils n'ont pas cru en lui. Lorsque Mohammed sallam est venu, ils n'ont pas cru en lui. De même pour ce qui est des chrétiens, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Mohammed sallam lorsqu'il est venu. Et ils ont cru en Isa. Alors que les musulmans, ils ont cru dans tous les envoyés. Ils ont cru tous les envoyés, depuis le début jusqu'à la fin. Ça donc, c'est simplement un rappel par rapport à notre croyance, pour ce qui est des envoyés. Pour bien comprendre le sujet, et pour donc, et Ali, rester dans ce qui est de Minaj al-Anbiya. On a dit donc que les envoyés, ils ont commencé leur croyance avec le tawhid, avec la croyance. Taïb, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la prophétie elle a commencé, lorsque Allah azza wa jalla l'a désigné comme étant donc un prophète, et qu'il l'a donc chargé en yuballir, il l'a chargé donc de transmettre par risala le message, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté combien de temps à Mecca? Il est resté 13 ans à Mecca. Qu'est-ce qu'il a fait Amika durant 13 années, Assas al-Tawhid, c'est-à-dire donc qu'il a mis en place la véritable croyance du Tawhid. Ça a été sa fonction durant 13 ans. Regardez 13 années. 13 années, c'est beaucoup 13 années. Une personne qui pense maintenant durant 13 années, et la personne pratiquer de la tawhid. Alors comment ça se fait que certaines personnes, on avait dit à lui, c'est-à-dire donc c'est une contradiction avec le chemin des prophètes, ceux qui commencent leur dawa par une autre chose que le tawhid. Alors que le prophète salam lui-même, il a commencé durant 13 années. Ceux qui commencent ici à ça, c'est-à-dire ils commencent dans un premier temps par la politique, ou alors ceux qui commencent pour ce qui est de l'adoration et des afkars, c'est-à-dire donc des invocations, etc. Et donc ils se concentrent sur cela, sans prêter une réelle attention à ce que c'est le tawhid. On va voir que le tawhid, c'est large. Et le tawhid, réellement, pour comprendre, il faut comprendre ce qui va à l'encontre du tawhid. Car les choses réellement, elles deviennent plus claires lorsqu'on comprend leur contraire. On comprend, on sait, on connaît réellement ce que c'est le jour parce qu'on a connu ce que c'était la nuit. On sait vraiment ce que c'est la froideur parce qu'on sait réellement ce que c'est la chaleur, etc. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ça c'est le premier verset qui va nous indiquer ce qu'on est en train de développer. Ce premier verset c'est le suivant. ولقد بعثنا في كل أمة. On a donc envoyé dans toutes les communautés qui رسولا. Donc on a envoyé أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et donc ici de quoi faire? C'est-à-dire afin de quoi faire? Afin d'adorer Allah عز وجل et de s'écarter du At-Tarut. Qu'est-ce que At-Tarut? Ça, c'est le premier verset. Dans un premier temps, dans ce verset, et dans les deux autres versets qu'on va citer, ça, c'est à titre d'exemple, il y en a plusieurs, c'est qu'on va trouver ici les deux piliers de At-Tawhid. Et que tous les envoyés dans leur voie, ils ont appelé à cela, c'est-à-dire à concrétiser le tawhid, et ce que comprend cette concrétisation, c'est de s'écarter de tout ce qui va à l'encontre du tawhid. Donc, il y a eu ici ce qu'on appelle une affirmation. Anirbudullah. Ici, c'est l'affirmation. Ce qu'on appelle ifdat. C'est ce qu'on appelle donc en langue arabe al-ifdat. Ça, c'est l'affirmation. C'est le premier donc pilier de tawhid. C'est le premier pilier de l'unicité d'Allah Azzawajal. Le deuxième pilier que l'on retrouve dans ce verset, Ani'budullah, wajtanibu ta'ut. Donc de s'écarter, de nier ce qu'on appelle la ta'ut. On va revenir sur ce terme, la ta'ut, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau du char, comment expliquer les savants. Et donc de s'écarter, qui sont traduits de façon générale, de s'écarter de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal. Ça c'est la ta'ut. Donc on voit ici qu'il y a bel et bien ce qu'on appelle un nafi. Ce qu'on appelle un nafi. Un nafi qui vient du verbe nafa. Et qui est donc le fait de renier, le reniement. Donc en premier lieu, on a eu l'attestation, tester qu'Allah Azzawajal, c'est celui seul qui mérite l'adoration, et donc de concrétiser cela par les actes, par les paroles, par le cœur, mais également, pour que cela devienne complet, de s'écarter et de rejeter tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal comme adoration. C'est-à-dire qu'on adore un autre qu'Allah Azzawajal. Adawan Nafi. Ça, c'est les deux piliers de quoi? Du Tawhid. Al-Ithbat wa Nafi. Et on va retrouver dans beaucoup des versets du Coran. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle la voie des envoyés, qu'ils ont commencé par là. L'autre verset du Coran que l'on cite, c'est le suivant. Lorsque Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui fait partie bien entendu des grands prophètes de l'islam, car tous ils ont appelé bien entendu à l'islam, qui fait partie des grands prophètes de cette religion. Ibrahim, lorsqu'il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Dans ce verset, qui est le suivant, lorsqu'il a dit Ibrahim à son père et à son peuple, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Je me désavoue, je suis innocent, je me désavoue, je m'écarte donc de ce que vous adorez. Donc ici, un nafi. On retrouve donc le premier ou le deuxième, suivant là, c'est pas un problème, du tawhid. Et ensuite, illa alladhi fatarani, c'est-à-dire sauf celui qui m'a créé. Donc on voit ici, dans la deuxième partie du verset, quoi? Al-Ithbat. Ça en a été simplement la traduction de la part d'Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah. Ithbat. Nafi ithbat. Nafi ifbet, adawa. Également, Le deuxième verset que l'on cite, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. C'est-à-dire, nous n'avons pas envoyé d'avant toi, c'est-à-dire avant le prophète sallam, d'envoyer le prophète, si ce n'est que nous leur avons fait comme révélation La ilaha illallah, ou la ilaha illa ana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est moi, si ce n'est moi. Donc on voit que, également, ça a été le départ de la da'wah de tous les envoyés. On retrouve ici dans cette parole, la ilaha illallah, ou précisément ici, la ilaha illa ana fa'budun, où on nous a promis en nafi, et ensuite, al-ibad. Et c'est ainsi de suite dans beaucoup des versets du Coran. Lorsqu'on va retrouver le tawhid, on va s'apercevoir, que ce soit dans le même verset, ou alors que ce soit dans plusieurs versets, on va s'apercevoir toujours de ces deux piliers. Washtanibut Tarut, qu'est-ce que veut dire le terme Tarut? Tarut, la meilleure définition qui a été donnée par, c'est par le grand savant de l'islam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et il dit, Awalan, Tarut, ça vient du terme Turyan, ça vient du terme At-Turyan, et qui en réalité, Tajawuz al-Had, le fait de dépasser la limite, c'est le fait de dépasser la limite, At-Turyan. C'est pour ça qu'on dit para, para du verbe, donc para, innaou, para, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite. Donc ce terme, il vient à paro de turyan, qui est donc al-masdar, qui est du verbe, donc para. Ça veut dire dépasser la limite, au niveau de la langue arabe. Ensuite, au niveau du char, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim et d'autres savants également, ma tajawaza al-abdu, ou ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min. Ma'boudin, ou matbou'in, matbou'in, ou muta'a, donc trois, min. Ma'boudin, ou matbou'in, ou muta'a. Pour ce qui est de, al-ma'boud, min ma'boudin, tout ce qui est en dehors, c'est en réalité, à titre d'exemple, al-asnam, al-as'ab, c'est-à-dire donc, les idoles, c'est-à-dire également, les statues, etc. Ça rentre dans, ma'boud. Donc si on adore, ou alors tout ce qui va être en dehors d'Allah, dans l'Allah Azzawajal qui rentre dans ce terme ma'boud, ça fait partie de Tawarit, c'est le terme de Al-Jam Tawarit. Ou Matbou'a. Matbou'a, comme l'explique Ibn Qayyim, à titre d'exemple, Al-Kuhan. Al-Kuhan ou Sahara, qui sont en réalité les devins, qui sont les devins et qui sont également les sorciers. Ceux donc qui sont suivis. Et eux, bien entendu, les devins et les sorciers toujours, parce qu'ils sont suivis dans leur dalal et dans leur shirk, yardawun, c'est-à-dire donc qu'ils sont satisfaits de cela. Car ça c'est une condition pour que la personne ne s'appelle pas route, c'est qu'on soit satisfait de cela. Sinon on adore les gens en dehors d'Allah Azzawajal, ces gens ils n'ont pas été satisfaits de cela. Comme par exemple Aïssa, Ibn Maryam. C'est un prophète qui n'a jamais pu accepter qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal. Donc ça c'est une condition. En espérant, c'est qu'ils sont en fait satisfaits. Yardoua bidalik. Ensuite, ça c'est pour Matbou'a. Et ensuite, Mouta'a, Al-Mouta'a, c'est celui donc qui obéit. Comme, à titre d'exemple, Al-Umara, c'est-à-dire les dirigeants. Ou alors, Al-Ulama, c'est-à-dire les savants. Ceux qui vont détenir une autorité. Et qui vont légiférer. Donc ici, ceux qui, si on les suit dans ce qu'ils nous oblige par exemple comme shirk ou autre, ou comme désobéissance à Allah Azzawajal. Donc ici on va également rentrer, ou ils vont rentrer dans cela, si eux ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et pour ici développer, certains savants comme Cheikh Al-Rafaymi, Rahmatullah Ali, ils divisent donc, ou ils nous donnent trois catégories de ce genre de personnes, de ceux donc qui vont suivre. Il va dire, la première catégorie c'est ceux qui sont satisfaits de cette loi, qui est une loi différente de celle d'Allah Azzawajal. Donc il est satisfait de cette loi-là, il la suit, et en réalité il déteste la loi d'Allah Azzawajal. Donc le fait qu'il a détesté la loi d'Allah Azzawajal, le fait qu'il s'est satisfait d'une autre loi, et le fait donc qu'il la suit, tout ça, ça va nous prouver que cette personne-là rentre sur Qism al-Kuffar, c'est-à-dire dans ceux qui sont considérés comme mécréants dans l'islam. Et bien entendu, pour celui qui va détester la loi d'Allah Azzawajal, qui va être satisfait d'une autre loi. Voyez, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne donc qui va suivre cette loi-là, mais il n'est pas satisfait de cette loi. Il n'est pas satisfait de cette loi-là, et il sait, avec croyance, que la loi d'Allah Azzawajal, c'est la meilleure, et que c'est celle qu'il doit suivre. Mais, bi shahwa, ou bil hawa, et tiba al hawa, c'est-à-dire, le fait qu'il suive sa passion, ou alors pour des biens matériels, le fait yani, de pouvoir accéder par exemple à une loi wadifa, c'est-à-dire un métier, etc., il va donc suivre certaines lois, voyez, alors que lui, dans son cas-là, il n'est pas satisfait de cette loi, il sait que c'est la meilleure loi d'Allah Azzawajal, etc. Lui, c'est un as, un fasr, la kina et kufr, c'est une sorte d'islam. Ça reste une personne qui est considérée donc aux yeux de la religion comme une personne étant fasr, c'est-à-dire pervers, et aasi, c'est-à-dire donc qui vit dans la désobéissance. Et ensuite, la troisième personne, c'est celle qui est ignorante. C'est celle qui est ignorante, celle qui ne sait pas. La troisième personne, elle ne fait pas la différence entre réellement la loi d'Allah Azzawajal et une autre loi, de par leur ignorance. Cette catégorie-là est divisée en deux catégories. La première, c'est la personne qui a la capacité de pouvoir apprendre et qui ne l'a pas fait. Cette personne-là, en réalité, c'est un hakim. C'est une personne non qui reste dans la désobéissance et qui est considérée comme un pécheur parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire apprendre et se renseigner pour ce qui est de la loi d'Allah Azzawajal. Et la deuxième personne, c'est celle qui n'a pas les moyens de se renseigner ou qui n'a pas les moyens d'avoir science de cela. Comme par exemple une personne qui serait vraiment très, très vieille en âge, ou alors qui n'aurait pas la possibilité, ou qui n'aurait aucun savant auprès de lui, etc. Et cette personne-là, elle n'a rien du tout. Cette personne-là, elle n'a rien du tout, de par son ignorance, et qu'elle n'a pas pu apprendre. Et on se base, où le Shia, rahimallah, il s'était basé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est apporté par Abu Dawud ou Ahmed, qui est un hadith authentique. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un afta bireil ilmin, celui donc qui va donner un avis de jurisprudence sans science. Celui qui va donner un avis de jurisprudence sans science. Un afta bireil ilmin, fa innama al ithmu ala man aftahu. C'est-à-dire, le péché est sur celui qui a fait la fatwa. Le péché est sur celui qui a fait la fatwa. Parce qu'on comprend de ce hadith, ma wa wajud istidlal, l'aspect argumentatif, c'est tout simplement que la personne qui va demander une fatwa à un savant, croyant que c'est une personne qui a de la science, cette personne, elle va répondre, elle va faire une fatwa sans aucune science. Vous voyez, sur qui est le péché à ce moment-là, et qu'elle, bien entendu, elle va prendre en compte cette fatwa, qu'elle va gagner à même du muqtada avec la fatwa, c'est-à-dire elle va faire l'acte suivant ce qui lui a été dit. Le péché, il est sur qui? Il est sur celui qui a fait la fatwa, comme l'indique le hadith du prophète sallam. Pas sur celui qui a pris la fatwa, et qui ensuite qui l'a fait, de par son ignorance. Donc on voit ici que c'est sur quoi les savants sont basés pour dire que celui qui n'avait pas la capacité de distinguer, d'avoir la science sur ce sujet-là, n'avait rien par rapport à la religion. Pour ce qui est également de cette question, on se rappelle un verset du Coran, et qui est le suivant, « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » C'est-à-dire, ils ont pris, Allah Azza wa Jalla nous dit, que certaines personnes ont pris donc leur al-ahbar, c'est le pluriel de habr, et qui est le al-alim al-wasir, wasir al-alim, celui qui a beaucoup de science et qui est un savant. Takhadou ahbarahum. Et on va le plus retrouver cela chez qui? Chez les juifs. Car on sait que les juifs, ils ont su, alimou, ils ont eu la science, mais ils n'ont pas suivi. Warahbanahum. Warrohban, ce sont donc l'abid al-za'id, c'est donc celui qui fait beaucoup d'adoration. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de jahl par rapport au dîn, mais qui a un niveau d'adoration qui est très élevé. Za'id, Tayyib Asad. Donc cette personne-là, on va la retrouver plus précisément chez les chrétiens, car elles se sont égarées de par donc leur ignorance, de par leur ignorance, contrairement aux juifs, dans la majeure partie des cas. Ittakhadu ahbara wa marbanahum arbaba min dunillah, comme seigneur en dehors d'Allah Azzawajal. Un des sahabis, qui était lui avant chrétien, qui s'était converti à l'islam, il est venu au prophète sallam lorsqu'il a entendu ce verset, car il y a eu un échelle, c'est-à-dire il y a eu une ambiguïté. Il croyait en réalité que jamais ces gens-là, ils ont pris ce type de gens comme qui? Comme Yanni, seigneur. Comme s'il avait voué une adoration. Et le prophète sallam, il va lui faire comprendre comment ici elle est venue cette adoration en dehors d'Allah Azzawajal, ou alors dans quel prisme, dans quelle catégorie ça va rentrer. Et ce sahabi, c'est bien entendu Adi ibn Hatim, radiallahu ta'ala anhu. Ibn al-Qasim, il lui a dit, lasna na'buduhum, c'est-à-dire, on ne les adorait pas. Et Ibn al-Qasim, donc, il va user la lishuba, c'est-à-dire qu'il va, ou la lishkal, c'est-à-dire qu'il va dissiper cette ambiguïté qu'il avait à Adi. Il va lui dire, alayhi sa, يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقال نعم، فقال فتلك عبادته. وقال صلى الله عليه وسلم إلى عدي بن حاتم: Ce n'est pas ces gens-là qui rendent licite ce qu'Allah Azzawajal lui a rendu illicite, et vous, vous les suivez dans cela. Et ce n'est pas ces gens-là qui rendent illicite ce qu'Allah Azzawajal a rendu illicite, et vous les suivez dans cela. Et Hadith Zénam, c'est-à-dire longtemps en lui avant, longtemps avant de la Jahili, avant qu'il se convertisse, c'était comme cela. Il a dit Nam, il a dit Tilka Ibadatum, il a dit donc ceci est leur adoration, Ibadatum. C'est-à-dire qu'ils les ont adorés dans ce sens-là. Ils les ont suivis. Et bien entendu, c'est bien l'irtiqad. C'est-à-dire qu'ils ont eu la croyance. Vous voyez, ce qu'ils faisaient, c'était donc qu'ils étaient satisfaits, qu'ils avaient la croyance que cela était meilleur. Donc ils sont rentrés dans le shirk, fi hadha al-bab. Donc c'est pour ça que dans ce verset, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » الطاغوت, ils rentrent tout cela dedans. Et donc, on voit qu'ici, il y a al-ithbat wa al-nafi. Wa al-nafi, nafi al-ish, nafi al-shirk. L'associationnisme, donc on va renier l'associationnisme de façon générale. Wa shirk, shirk al-akbar, wa shirk al-asghar. L'associationnisme qui est majeur et l'associationnisme qui est mineur. Et bien entendu, pour faire la différence entre les deux, pour ce qui est du majeur, celui qui le fait, c'est celui qui va rentrer en enfer éternellement. Et donc Allah Azza wa Jalla, jamais il va lui pardonner. Et c'est celui qui n'est pas considéré comme musulman. Et celui, s'il meurt, on ne l'enterre pas avec les musulmans. Et il ne mérite pas. Contrairement à celui qui rentre dans le shirk al-asghar. Celui, le shirk al-asghar, c'est celui donc qui ne sort pas de l'islam. Et dont ses œuvres ne sont pas toutes annulées, contrairement au shirk al-akbar. Et donc il reste musulman, et donc on hérite de lui, etc. Pour ce qui est du pardon, on se connaît ce verset. Type de rappel, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah il ne pardonne pas pour lui donner des associés, pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et ici donc le shirk, il y a un avoir le shirk al-akbar ou al-ashar. Il y en a mutlaq al-shirk, c'est-à-dire mutlaq al-shirk, c'est-à-dire le shirk, il est cité de façon absolue. Donc il rentre dedans le shirk al-akbar ou le shirk al-ashar. Donc Allah il ne pardonne pas ces deux catégories du shirk, comme cela a été cité par beaucoup de savants, parmi les muhaqqiqin, Moucha al-Islam et d'autres encore. C'est ce que les envoyés, ils ont commencé. Ils ont commencé donc à mettre en garde leur communauté du shirk. Et on va voir que le prophète Sun, durant toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Que ce soit le shirk dans les actes, que ce soit le shirk dans les paroles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il a mis en garde contre cela. Et nous, on va insister, inshallah, sur un point qui est important. Un point qui est fondamental. Et on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de musulmans qui sont tombés dedans, qui sont tombés dans ce shirk-là. Et donc si إذا ركزنا على هذا النوع من الشرك وعلى هذه الصورة, si on se concentre sur cela, on voit beaucoup de gens qui sont tombés dans cette catégorie. Et bien plus précisément ceux qui vivent au Maghreb, l'arabe, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, sont en Tunisie, des choses qu'on voit beaucoup. Et qui en réalité l'adoration de l'Aoulia, le culte qui est voué à l'Aoulia, ou ce qu'on appelle au saint, et tout ce qui est fait au niveau des tombes. Et donc, on va parler sur ce sujet-là. Parce qu'on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été la dawa de tous les prophètes avant lui, ils ont mis en garde, حَذَّرُوا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ, c'est-à-dire qu'ils ont mis en garde de manière forte, de manière appuyée dans leur vie. Et on va voir à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa vie, à travers donc ses paroles, est-ce qu'il a mis en évidence, est-ce qu'il nous a donc averti, on va voir qu'il n'y a plus ensuite d'ambiguïté pour tomber dedans. Pour celui qui a la science et pour celui qui apprend son tawhid, pour celui donc qui connaît comment les prophètes, ils ont procédé dans leur da'wah. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous dit d'abord dans un verset du Coran, « Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq » Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit sur Allah uniquement la vérité. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que les gens du livre, et plus particulièrement les chrétiens, et également les juifs, ils ont pris des hommes en dehors d'Allah Azza wa Jalla comme divinité. Que ce soit les juifs au Zahir, ils ont dit que c'était le fils d'Allah, que ce soit les chrétiens, ils ont pris Isa. Soit ils ont dit qu'il faisait partie de la Trinité, soit ils ont dit que c'était le fils d'Allah. Ou soit ils ont dit même ceux qui ont dit que c'est Allah lui-même, etc. Dans toutes les sectes qu'on retrouve chez les chrétiens. Eux, ils sont tombés dedans, voyez, parce qu'ils ont adoré un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et ça a commencé par quoi? Par Al-Ghulu. C'est-à-dire qu'ils ont placé une personne dessus de son niveau. C'est ce qu'on va retrouver en réalité chez beaucoup des musulmans, malheureusement, qui sont tombés dans ce shirk. Si on regarde bien les croix, si on regarde comment le shirk il a apparu, comment le shirk il a apparu sur la terre. Et à partir de ce moment-là, les envoyés, ils ont été envoyés. On sait que, dans un verset du Coran, Allah Azzawajal, il va nous indiquer, subhanahu wa ta'ala, il va nous indiquer que le shirk il est advenu dans la communauté de Nuh, alayhi salam, qui était donc le premier envoyé. Entre eux, comme cela a été expliqué par Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, et d'autres parmi les salafs, entre Adam et entre Nuh, il y a eu 10 siècles. 10 siècles, les musulmans, car ils étaient considérés comme musulmans, mais en tout cas, les monothéistes, ils étaient tous uniques. Ou alors, ils étaient unifiés sur la même croyance. Il n'y avait pas de divergence entre durant 10 siècles. Jusqu'à ce qu'il advienne ce shirk. On va voir comment il est advenu le shirk. Et on va ensuite faire la comparaison avec ce qui est advenu dans la communauté musulmane. Et on va voir également ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, sachant ce qui était apparu déjà dans le Firqaoum Noé, c'est-à-dire dans le peuple de Noé. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'était au moment où Noé il était là, ou alors avant Noé? Wal-tahqiq, c'est-à-dire donc la parole la plus forte, c'est de dire, comme beaucoup le dit parmi les savants, c'est qu'il est advenu avant même que Noé soit envoyé, qu'il soit présent. Donc avant Noé, même si ça fait partie du Qaoum Noé, mais il se peut que ce soit son peuple, d'où il est venu et d'où il est né, mais que ce chef-là, il est advenu avant. Allah Azzawajal nous dit dans un verset du Coran, et va donc faire apparaître ici comment est advenu ce chef, ou plutôt, il va nous rappeler qu'à ce moment-là, il y a le chef qui est advenu, et qui est le verset suivant. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِيَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Donc ici, c'est par rapport au peuple de Noé. Allah Azzawajal nous dit, en parlant donc d'eux, ne délaissez pas Aliyatakum, c'est-à-dire vos divinités. Et ne délaissez pas, et ensuite il a cité Allah Azzawajal des noms de ces gens qui ont été adorés. Et qui étaient à la base, vous savez qui étaient à la base des pieux, des gens pieux, sans les filles. Des Aouliyas, comme on les appelle. Donc regardez maintenant, déjà on va s'apercevoir le parallèle qu'il y a entre ce premier temps où le shirk il a apparu et aujourd'hui dans notre communauté où le shirk également il a apparu. Ayah nous dit là chez beaucoup de musulmans. Et ensuite il a cité des noms comme Wad, Waswa, ou etc. Les noms donc de ces cinq noms qui en réalité étaient des divinités qu'on adorait en dehors d'Allah Azzawajal. Il nous explique Ibn Abbas qu'au départ il y avait donc des gens pieux. Des gens très pieux. Aoulia, ceux qui étaient proches d'Allah Azzawajal. Voyez, on sait que le wali, c'est celui qui craint Allah Azzawajal, celui qui est proche d'Allah Azzawajal, celui qui craint Allah Azzawajal, qui est réellement sur la voie d'Allah Azzawajal, la voie des prophètes. Donc il y avait des gens qui étaient très pieux. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont morts, les gens de Nuh, c'est-à-dire du peuple de Nuh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va faire une chose, regardez, Wada Waswa, c'est Shaitan, c'est en réalité ce que le Shaitan leur a insufflé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé ce qu'on appelle des ansar, qui est le pluriel de nusub. Ou un nusub, c'est ce qu'on place en réalité, c'est ce qu'on implante, c'est ce qu'on fixe dans la terre. Ça peut être par exemple des bois, ça peut être par exemple des shijara, ça peut être des pierres. Alors qu'on les halles, on va les placer. Et on va mettre leur nom, et on va les placer dans Fimajal et Sina, lorsqu'on s'assoit, dans nos assises. Tout simplement, pourquoi? Pour se rappeler de ces gens-là. Pour se rappeler leur adoration, et pour qu'on les prenne comme modèle. Regardez, au départ, toujours la bonne niya. C'est au départ, beaucoup les gens, ils s'égarent en réalité, et au départ, ils ont une niya qui est bonne. Mais en réalité, qui est contraire à la charia, qui est contraire donc à la loi. On va voir qu'à la fin, il ne peut pas devenir du bien. Même si on a une niya au départ qui est bonne. Ils ont fait cela. Et ils nous expliquent Ibn Abbas que le temps ensuite, il est passé. Ils n'ont pas été adorés. Ils en sont restés ces gens-là parce qu'ils avaient de la science. Ils avaient du règne, ils ne sont pas tombés dans cela. Mais ils ont ouvert une porte. Et ils ont fait un grand mal, malgré tout. Et lorsque, comme il nous dit, lorsque la science elle a disparu, donc on voit ici Fad al-Ilm, comme on l'avait expliqué déjà dans le premier cours, et l'introduction qu'on avait fait. Regardez donc le bien de la science. C'est-à-dire qu'une fois que cette science-là a commencé à disparaître, et que les gens ils sont tombés dans l'ignorance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à adorer ces tombes-là, qui étaient en réalité à la base qui? Des gens pieux, Aoulia. Et c'est ce qu'on retrouve de nos jours, dans beaucoup des pays du Maghreb. C'est des gens qui étaient pieux, et donc ils vont à leur tombe. Voyez, au départ, c'est toujours pour une bonne niya, pour prendre baraka, etc. Et même si ça, c'est qu'on va le faire, Inch'Allah, comme cela est interdit. et qu'on nous fera, Inch'Allah, après le détaillera, et ça se finit en fait directement par le shirk. Et ça se finit même par le shirk Akbar, le grand associationnisme. C'est comme ça que ça a commencé chez nous, et ça ensuite ça s'est répété. Et c'est pour ça que le prophète sallam, tous les envoyés, c'était leur voix, lorsqu'ils ont parlé du tawhid, ils ont mis en évidence tout ce qui venait à l'encontre. Et ils ont bloqué, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué toutes les voies qui allaient amener au shirk. Et beaucoup de savants disent, lorsqu'ils donnent la définition de shirk al-asrar, ils disent, en vérité, le shirk al-asrar, وَالَّذِي يُوَاسِلْ أَوْ نَتَوَاسَلْ بِهِ la shirk al-akbar. C'est-à-dire donc, c'est une voie par laquelle, elle va nous amener, cette voie-là, au grand polythésie. Et ça rentre donc dans le shirk. Ça, c'est le shirk al-asrar, qui est une définition qui est donnée par beaucoup des savants. Taïr. Et comme on l'a dit au départ, les musulmans hésitaient, voilà, les monothéismes hésitaient tous sur le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. C'est-à-dire, les gens, la communauté, ils étaient tous unis. أمة واحدة, c'est-à-dire sur le haq. Et dans une riwayat de ce verset, فاختلفوا, c'est-à-dire ensuite ils sont divisés, donc Allah Azza wa Jalla à ce moment-là les envoyait. Pour donc rectifier ce dont ils avaient. C'est-à-dire ce dont ils avaient détérioré pour ce qui est de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ayant la science de ce qui était arrivé auparavant, et ne voulant pas que cela se répète dans sa communauté, il nous a dit un hadith, il nous a mis en garde. Ce hadith donc qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, qui est un hadith de Omar radiallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La truni » كما أفرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله لا تفروني في سبيل الله كلام كام الإطراء بالطاء سي en réalité comme le cycle savant المبالغة في المدح هذا هو الإطراء c'est en réalité l'exagération dans l'éloge. Exagération dans l'éloge. Al-Mubalara fil Madh, hada wa al-Ittara. En fait, ce sens dit, la tutrouni. C'est-à-dire donc, ne faites pas l'exagération de mon éloge. Comme on fait Al-Nasara, comme on fait donc les chrétiens avec qui? Avec Isa. Mais dites, je suis l'envoyé d'Allah Azzawajal, ou dites, je suis son esclave. Il a commencé pour faire ça par dire, ou par citer la première caractéristique, qui est la caractéristique du prophète de tous les envoyés, qui est le Ubudiyya. Ici, il y a l'ubudiyat al-khassa, ana abdullah. C'est-à-dire, je suis l'envoyé d'Allah Azzawajal. Ou afwan, je suis l'esclave d'Allah Azzawajal. Et on est tous des esclaves. Taïb, il a commencé par cela dans un premier temps. Pour rappeler aux gens que sa menzila, c'est-à-dire sa place, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire, donc, il reste, pour ce qui est de son statut, un homme comme les autres. Et qui, on ne peut lui vouer donc aucune adoration. On ne peut lui vouer aucune adoration, quelle que ce soit, petite ou grande. Donc il a commencé par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre en garde donc sa communauté. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça par rapport à lui, alors qu'est-ce qu'on doit dire par rapport aux gens pieux? Est-ce qu'on a le droit d'exagérer dans leur louange et d'en venir jusqu'à aller prendre la barata chez eux, ou alors jusqu'à égorger devant leur tombe al-dhabaih, sacrifice, etc. Ayyadun billah, si on ne fait pas ce qu'on fait, alors on va le faire pour celui qui est en dessous de lui. Et lorsqu'on a dit al-raboudiyat, bien entendu, al-raboudiyat al-am ou al-raboudiyat al-khas. Ils sont tous donc des esclaves. Mais il y a parmi eux, c'est ce qu'il y a en anglais, Rabudiyat al-Khassa, c'est-à-dire celle qui est spécifique, ce sont les croyants. Donc le prophète, il a dit, Ana Abdullah, Fakoulou Abdullah wa Rasoulou. Wa Rasoulou. Et ensuite, il est venu à deuxième caractéristique, et qui est en réalité A'la al-Was, Inde al-Makhlouqin, qui est en réalité la plus grande caractéristique chez les hommes, qui est en réalité Wasfer Dissara, qui est celui donc. C'est les caractéristiques du message, donc de celui qui est messager. Donc ce hadith est plus que clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en garde, comme l'ont fait tous les autres prophètes, pour ce qui est donc de protéger le tawhid et tout ce qui peut lui venir à son encontre. Et même pour ce qui est de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir encore d'autres hadiths qui sont dans ce sens. Pour ce qui est du al-shukuk, les savants nous ont rappelé qu'il y a trois. C'est-à-dire qu'il y a trois en réalité droits. Il y a un droit qui est propre à Allah Azzawajal. Haq mahdoum lillah. Wa ma yakhassu bi uluhiyati wa rububiyati wa asma'i wa sifati. C'est-à-dire un droit qui est spécial à Allah Azza wa Jalla et qui est propre et qui est spécifique à lui et qui rentre dans son adoration, qui rentre dans sa seigneurie, qui rentre dans ses noms et ses attributs. Comme Allah Azza wa Jalla, il dit وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, c'est-à-dire faites sa louange, Allah Azza wa Jalla, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, c'est-à-dire مِنْ بِدَاةَ النَّهَارِ إِلَى النِّهَايَةِ ou مِنْ أَوَلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِ, c'est-à-dire du début de la journée et la fin de la journée. صَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, هذا حق الله محق. Il y a un حق qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم, وَهُوَ إِعَانَتُهُ وَتَوْقِيرُهُ وَتَعْزِيزُهُ, c'est-à-dire le fait qu'on doit aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc durant son élan comme l'ont fait les sahaba, comme l'ont fait les croyants, et on doit lui donner un grand honneur, et on doit lui donner un grand honneur et un grand respect, donc on doit le vénérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vénérer bien entendu suivant son rang, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, وَتُعَزِّرُوهُ, c'est-à-dire vous lui faites honneur, وَتُوَقِّرُوهُ, et vous lui donnez un grand respect. Ça c'est un droit qui est spécial au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il y a un droit qui est mushtarak, حَقُّ مُشْتَرَك, c'est-à-dire un droit qui est commun pour Allah et le prophète, et qui est comme on trouve dans le verset suivant, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ, c'est-à-dire que vous croyez en Allah et son prophète. Donc cette foi que l'on doit avoir, c'est le droit d'Allah et le droit du prophète. Le droit d'Allah comme étant le Seigneur et le droit du prophète bien entendu comme étant l'envoyé. C'est la troisième catégorie de Al-Shukr ici. Taïr, donc on voit qu'il n'y a pas à faire de khalt, c'est-à-dire on n'a pas à faire de mélange pour ce qui est le droit du prophète et le droit d'Allah Azza wa Jalla, pour que les choses elles soient claires. Ensuite on va rentrer dans ce qui est encore plus spécifique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit une chose. Il nous a interdit une chose, et que ici également, les musulmans, ils l'ont fait, ayyadun billah. Et qu'ils sont écartés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont écartés de la voie de tous les envoyés d'Allah azza wa jalla, et ils sont tombés dans le mal, ils sont tombés dans le shirk de par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il y a beaucoup de riwayats, c'est-à-dire beaucoup de hadiths qui sont venus dans le même sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend une des riwayats, « Muttafaqun alayhi min hadith Aisha » Il dit « La'anatullah ala al-yahoud wa al-nasara » La'anatullah ala al-yahoud wa al-nasara » C'est-à-dire que la malédiction soit sur les juifs et les chrétiens. « Ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida » Ils ont pris les cimetières ou le qubur, les cimetières donc, de leur envoyé comme une prière. Et ensuite Aïcha dit يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Le prophète Sahel nous met en garde de ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. Ils ont pris donc les cimetières de leur prophète comme le prière. Qu'est-ce que ça veut dire ittikhad al-masajid? Qu'est-ce que ça veut dire ittikhad al-qubur masajid? Ici, on va voir qu'il rentre dedans trois sens. Et on va le voir à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois sens. Le premier sens, as-salatu ala al-qubur bima'na sujudu alayha. Ça, c'est le premier sens qui rentre dans ittikhad al-qubur masajid. C'est-à-dire le fait qu'on va se prosterner au-dessus du cimetière, on se prosterne. Ça rentre dedans. Le deuxième sens, et par rapport à ça, on a un hadith du prophète sallam, un hadith ibn Abbas, qui nous dit, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, c'est là, et qui est numéro 1016, où le prophète sallam, il nous dit, la tusallu ila qabrin, wa la tusallu ala qabrin. La tusallu ila qabrin, wa la tusallu ala qabrin. Donc ala qabrin, au-dessus du cimetière. Le deuxième sens, c'est as-sujud ilayha wa istiqbaluha bis-salah wa ad-du'a 'indaha. Ça c'est le deuxième sens. C'est le fait de prendre le cimetière en face de nous, de prendre comme une qibla et donc à partir de là de se prosterner ou alors de faire des du'a. Ça y est. Et ici, c'est précisé dans le hadith d'Ibn Abbas, la tusallu ila al-qabr, mais en direction du qabr, mais également wa la tusalli ala al-qabr. C'est pas donc prier au-dessus. Ce hadith il suffit pour les deux. Et ensuite, le troisième, c'est bina al-masajid alayha wa qasdu salafiha. c'est-à-dire le fait de construire une mosquée au-dessus de quoi ? Au-dessus des al-qubur, et ensuite de prier dedans. Et avec le trace, on sait bien qu'il y a al-qubur, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et dedans, il y a deux images qui vont rentrer. La première image, donc, c'est le fait de la construction elle-même, et la deuxième image, c'est le fait de prier au milieu des al-qubur. Le fait de, par exemple, de prier en ce qui est un cimetière, on se met au milieu du cimetière et on prie dans le cimetière. Voyez ? Donc il rentre deux images dans cette troisième catégorie. Donc on voit qu'il y a trois sortes. Et tout ça, ça rentre dans Ittikhad al-Qubur Masajid. Assistement interdit de le faire. Même il est venu dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, il est venu qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur al-Qabr. Ou la taqoudou alayh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit même de s'asseoir sur al-Qabr, qu'on n'a pas le droit. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a mis en garde pour ce qui est de Masalat al-Qubur. Et regardez ce fond, non, des musulmans de nos jours. Ils ont été bien plus loin. S'ils avaient respecté ces choses, ou alors ces interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien de cela ne se serait passé, absolument rien. C'est par ignorance. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit tout cela? Pourquoi il nous a interdit tout cela? C'est tout simplement pour donc éviter qu'on tombe dans le shirk. Et que les gens qui commencent à prier en direction d'Al-Qabr, ou alors qui commencent à prier proche des morts, le shaitan y vienne, l'ouassouas, et qu'ensuite ça devienne, et que même si la personne elle fait ça, elle a de la chance au départ, et si cette chance elle part, comme on l'a vu, c'est arrivé sur Promenour, alors qu'est-ce qu'ils adviennent? Ils adviennent que ces gens ensuite, ils prennent, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on voit, ils prennent un awliya, ils prennent donc les saints, et ils leur vouent une adoration. Ou alors ils font des doigts autour d'eux, auprès d'eux, etc. Pour ce qui est du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa tombe, ici on va avoir, en réalité, peut-être une chouboua, c'est-à-dire une ambiguïté. Dans le hadith que j'avais cité, le hadith de Aïcha, elle avait dit que s'il n'y avait pas eu cela, et que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas eu peur qu'on prenne donc sa tombe, comme quoi, comme lieu de prière, oubliza qabrou, c'est-à-dire que, oubliza bin al-buruz, et qui est abdur, qui est le fait donc qu'on aurait placé donc sa tombe au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en dehors, d'où elle a été placée, c'est-à-dire dans ce Hujrati, c'est-à-dire dans son appartement. Par exemple, on l'aurait mis au Baqir, ou alors on l'a mis dans un autre endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu cela de faire donc de cela qu'on vienne et qu'on prenne donc cet endroit-là comme lieu de prière. C'est pour ça qu'il est resté, ça c'était la première illa. La première cause, c'est pour ça qu'il est resté qu'on a donc Dufina fi Makan, Makan Adimata fi. Ça y est ? La deuxième illa, c'est que, comme il nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est des anbiya, on les enterre ou ils meurent. Ça, c'est la deuxième cause. Donc, pour ces deux causes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était placé, ou il était enterré là où il est mort, c'est-à-dire dans la maison de Aïcha, dans l'appartement de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. La chouboua qui peut venir, c'est-à-dire l'ambiguïté, c'est que maintenant, dans la mosquée al-Nabawi, le masjid al-Nabawi, on a le tombeau en réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve à l'intérieur de la mosquée. Qui se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Donc ça peut être une ambiguïté. C'est beaucoup de gens qui posent la question. Pourquoi son tombeau à l'intérieur de la mosquée? Alors, en fait, il a interdit qu'on prenne donc la mosquée comme lieu où Arfan, le cimetière, comme lieu de prière. Ou alors qu'on prenne son tombeau comme lieu de prière, etc. On va répondre ici de plusieurs façons. Dans un premier temps, du temps du prophète, et au moment où il est mort, et ensuite du temps des Sahaba, le prophète et la maison du prophète, c'était en dehors de sa mosquée. Donc il n'y avait aucune ambiguïté. C'était en dehors de sa mosquée. Et ça, c'était du temps des Sahaba. Certains savants, ils ont dit que même du temps des Sahaba, il y a eu ensuite ce qu'on appelle le tawsi'at, c'est-à-dire l'extension qui a été faite de la mosquée, et qui a été faite sous Al-Walid ibn Abd al-Malik, en l'an 88. En l'an 88, Al-Walid ibn Malik, Rahimallah, qui était donc Amir al-Mu'minin à ce temps-là, c'est lui qui a donné l'ordre donc d'agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, donc, de faire entrer l'al-Qabr et donc l'appartement du prophète à l'intérieur de la mosquée. Mais à ce moment-là, beaucoup de savants, ils ont dit, comme Sheikh al-Albani et d'autres parmi les muhaqqiqin, ils ont dit, mais il n'y avait plus de sahaba à cette époque. On ne s'est pas fait du temps des sahaba. Certains ont dit, il y avait des sahaba, mais d'autres ont dit, il n'y avait pas de sahaba. Et il est vrai que le dernier sahaba qui est mort à Médine, c'était Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu. Il est mort exactement en l'an 78, fi khilafati Abdelmalik, c'est-à-dire donc le fils de Al-Walid, qui était à l'époque Abdelmalik al-Amir. Donc on voit que déjà du temps des Sahaba, Il n'y a pas eu cela. Le prophète Samuel n'est pas rentré à l'intérieur, donc on n'a pas fait l'expansion de la mosquée. Voyez. Et la deuxième chose également, c'est parmi les tabi'ines, on sait ceux qui ont donc un chaos, c'est-à-dire ceux qui ont été contre cela. Et parmi eux, il y a eu Saïd ibn Musayyib, qui faisait partie bien entendu des grands savants parmi les tabi'ines. Une fuqa al-tabi'an al-kibar, c'est-à-dire parmi les choses que ceux. On sait que lui, de manière claire, il était contre cela. Ensuite, la troisième chose, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que cela est advenu, et qu'on a retrouvé donc l'appartement à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a fait une dua. Le prophète, il a fait une dua avant qu'il meure. Et il a dit cette dua, Allahumma la taj'ali qabri wa thanan yu'badu. Wa thanan yu'badu. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, ne place pas ma tombe comme une, et qu'elle devienne donc cette tombe, Wafanan, c'est-à-dire comme une statue qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal, comme une idole qu'on adore à Allah Azzawajal. Et on sait que cela, en fait, comme le rappelle Ibn Qayyim rahmatullah alayh, que Allah Azzawajal s'est-à-dire la da'watu, c'est-à-dire qu'il a répondu à sa dua. Pourquoi? Parce que maintenant, à l'intérieur de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est mort, à l'intérieur du Qabr, il y a en vérité trois murs, taillés, et ces trois murs, la façon dont ils sont disposés, il est strictement impossible que la personne, elle se dirige vers la Qibla. Vers la Qibla, elle se dirige en même temps vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est strictement impossible que cela vienne. Donc les gens, en réalité, ils ne peuvent pas prier en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et uniquement les bid'a qu'on va voir, c'est les bid'a lorsqu'ils se mettent devant et qu'ils yad'ounian, qui font par exemple des doigts, etc. Taïd. Mais jamais ça a été pris en réalité comme un lieu de prière. Ça n'a jamais été pris donc comme un lieu de prière. Car il est strictement impossible de se diriger en direction de la Qibla et en même temps de se diriger dans la direction du tombeau. Et personne ne peut savoir exactement où on est la direction du tombeau. Donc on va s'apercevoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup insisté sur cela, pour ce qui est de Masalat al-Qubur, ou al-Qabr. Et donc, tout simplement, pour préserver le tawhid. Et également, dans un autre hadith qui est apporté par l'imam muslim, le hadith Abu al-Hayyaj al-Asadi, radiallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte qu'il est envoyé par Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, en mission. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il lui a dit Ali, il lui a dit « Ala ba'athuka lima ba'atha alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala ba'athuka ala ma ba'athani ilayhi ou alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » C'est-à-dire, je ne t'enverrai pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé. C'est-à-dire, par rapport à l'exécution d'une chose. « An la tada'a jifalan illa tawmastaw. Wa la qabran mushrifan illa sawwayka. » C'est-à-dire donc, ici, quelle est sa mission? C'est à chaque fois qu'il va voir Timtal. Timtal, c'est Asura, Bat Arwah, c'est-à-dire une image qui a une âme. Lorsqu'il la voit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'effacer. Atams, qui est Al-Izara, le fait d'effacer. Taïb, voilà, Qabran Mushrifan, donc Al-Qabr, qui est le tombeau. Mushrifan, qu'est-ce que veut dire ce terme Mushrifan? Ça veut dire Murtafi'an. Murtafi'an anil arm. Illa Sawaitam. Sauf, donc si tu vois une tombe qui va être au-dessus, être élevée, Mustafir, par rapport à la terre, au niveau de la terre, tu dois donc la niveler et la rendre au même niveau que la terre. Tout ça, pourquoi le prophète Sam, il a fait cela? Pourquoi donc, jusqu'à ce niveau, il a incité le prophète Sam sur cela? Donc pour couper toutes les voies au shirk, toutes les voies au shirk. Et ça, c'était la voie de tous les prophètes. C'est par cela qu'ils ont commencé. Et c'est par cela qu'ils ont fini. Et c'était cela durant toute leur vie. Donc c'est par cela que tous ceux donc ceux qui se réclament de la da'wa, ils doivent commencer par cela. Celui qui ne commence pas par cela, ou le groupe qui ne commence pas par cela, faut être sûr, ce sont des personnes qui sont écartées de la voie du prophète. Ils commencent à vous parler toute la journée de ce qu'il y a à ça. Ils n'ont aucune importance, ils sont ignorants, juhal aslan, comment est-ce qu'Allah dit tawhid? Sache qu'ils sont loin du ménage de l'Anbiya. Ou alors, qu'ils vous parlent d'appeler les autres à l'islam et qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes ce que c'est réellement le tawhid, tout ce qui rentre en dehors du tawhid, et qu'ils appellent les gens donc à concrétiser le tawhid, alors sachez que ces gens-là, ils ont été, dès le premier point qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vu hier, et qui est donc le commencement des prophètes dans leur da'wa, par la concrétisation du tawhid, vous pouvez savoir donc que ce sont des gens qui sont écartés. ها طيب on va parler d'une question inchallah, ça c'est en plus inchallah, si on fait une parenthèse on finit par cela, bismillah. On va parler d'une question également qui est importante inchallah et qui concerne tout le monde et qui concerne plus particulièrement les sœurs, pour ce qui est de ziyarat al-qubur, pour ce qui est donc de visiter les tombes. La question c'est la suivante qui va se poser: est-ce que les femmes al-nisa, elles ont droit de visiter les tombes? Est-ce que les femmes, elles ont droit de visiter les tombes? Que ce soit la tombe du prophète, ou que ce soit toutes les autres tombes. Sachant pour ce qui est du prophète, et ce qui concerne les hommes ici, uniquement ce qui nous est rapporté d'un sahabi, Ibn Omar, c'est que lorsqu'il voyageait, et lorsqu'il revenait, il passait de Salim, il passait devant donc, la tombe du prophète, ensuite d'Abu Bakr et de Omar, et il passait donc le Salam. Il passait le salam. C'est uniquement ce qui nous est parvenu des sahaba, rien d'autre. Il ne faisait rien en dehors de cela. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: Sallu alayhi fa inna salatakum tablughuni ayna kuntum. C'est-à-dire donc, au comme on parle de l'Abbé sallallahu alayhi wa sallam, priez sur moi et votre prière, elle va me parvenir où que vous soyez. Donc on n'a pas besoin de se placer à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors faire des invocations à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous est parvenu des sahaba uniquement, c'est un fier de sahaba. C'est-à-dire, c'est un acte d'un sahabi, c'est uniquement Ibn Omar, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il revenait, il passait le salam à la tombe, lorsqu'il passait devant, uniquement, rien d'autre. Al-Kulihan, pour ce qui est de notre question-là, il faut savoir que les savants de l'islam, ils sont divisés en trois. C'est-à-dire trois avis. Le premier avis, ceux qui ont dit que c'est strictement interdit, que la femme n'a pas le droit de visiter la tombe. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont dit que c'est strictement, ou alors que c'est autorisé, moi de la femme. C'est autorisé que la femme, elle peut visiter les tombes. Et ensuite, le troisième avis, ceux qui ont dit le karaha, c'est-à-dire donc que cela est détestable. C'est permis, mais cela est détestable. On va revenir donc sur les preuves de chacun. Taïr. C'est bon? Salam. À la tous les hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith de lui. Et ce hadith, ça va être l'onda, ça veut dire ce qu'ils vont prendre, ceux qui ont strictement interdit que les femmes visitent les tombes. Ce hadith est le suivant, c'est un hadith qui a plusieurs versions. Et parmi ces versions, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, za'irat al-qubur. وفي رواية أخرى زوارات القبور زوارات القبور سحديث يعطي ابن عباس أبو هريرة إيدوث encore il y a beaucoup de versions. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants qui n'ont strictement interdit? Ils ont dit ici on a l'âme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que l'âme soit l'ibaral an rahmatillah, c'est-à-dire le fait qu'on invoque qu'une personne elle soit écartée de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire que ça c'est la malédiction, l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'ana Rasulullah sallam za'irat al-qubur, dans une autre version zuwarat al-qubur. Pour ce qui est de zuwarat al-qubur, ça veut dire donc celle qui visite al-qubur. Ils ont dit dans ces salons ici c'est strictement interdit que la femme elle visite, et ça fait même partie d'al-kabaïr, parce que l'âme ça fait partie de l'ouahid al-shadid, et l'ouahid al-shadid yadullu alayh al-kabira. Il y a d'où le kabir, c'est-à-dire que ça indique que c'est un grand péché. Donc ils ont pris ce hadith. Ceux qui ont permis, ils vont répondre à ce hadith-là. Et ils vont dire ce hadith-là dans la version où il y a Zouwarat. Zouwarat, c'est-à-dire à la was al-mubalaha. C'est-à-dire celle qui visite beaucoup. Zouwarat, celle qui visite beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a une autre version, c'est qui est la suivante. Mais le hadith Abu Huraira, Zahirat. Et ici, on n'a pas en vérité de mubalaha, c'est-à-dire de caractéristiques d'exagération, c'est-à-dire uniquement celle qu'on va visiter. Voyez. Et c'est une version en réalité qui est authentique, c'est-à-dire que beaucoup de savants, même s'il y a une divergence, ils ont authentifié. Et parmi eux, Hamad Shir, le grand muhaddith de Médine, et qui est mort, rahimahullah, qui s'appelait Hamad al-Ansari, et qui était parmi les grands savants et les grands muhaddith de Médine, et qui a une risala sur ce sujet-là, et donc lui, il fait taqir qu'il y a plusieurs versions de ce hadith et de cette parole-là, et qui vient Zahirat, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Zouwarat, ça ne veut pas uniquement dire, et dans tous les cas, que c'est l'exagération. C'est-à-dire, on peut dire Zouwarat, alors c'est une femme, ou alors que les femmes, elles visitent même de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la langue arabe, c'est un procédé qui est utilisé. Par exemple, Allah avait dit dans le Coran, il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامَ لِلْعَبِيدِ » C'est-à-dire, et Allah Azzawajal, ton Seigneur, et ton Seigneur ne fait pas injustice, n'est pas injuste envers ses créatures. D'ailleurs, ici, « الظلام »,« الظلام » en wajjal mubalara, c'est-à-dire par exagération. Et ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il n'est pas injuste, par exagération envers ses créatures, mais injuste, par non-exagération, abadam. Mais ici, c'est utilisé, ça ne veut pas dire que « wajjal mubalara » à la haqiqa, c'est-à-dire que c'est réellement ce qui va être compris. De même ici, Zouwarat. Donc ceux qui ont interdit, ils ont répondu de cette manière-là. Taïf. Ensuite, pour ceux qui ont dit que c'était permis, ils vont revenir avec d'autres hadiths. Ils vont revenir avec d'autres preuves. Parmi ces preuves, hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Umm Atiyya, radiallahu ta'ala anha. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء الأنصار في بيته il a donc réuni les femmes des Ansar dans une maison et parmi ce qu'il leur a dit ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا c'est-à-dire qu'il nous a interdit de suivre le convoi funèbre معنى هذا لا يؤكد أو ما أكد c'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur ce naï. Certains savants qu'ils ont compris que ce n'est pas une interdiction totale. Taïf. Mais en réalité, la réelle compréhension par rapport à la langue, c'est simplement un adila ma'akada, c'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur cette interdiction. L'interdiction est restée. Et donc, les femmes n'ont jamais suivi les convois funèbres, que cela reste une interdiction. Taïf. Donc en réalité, cette preuve-là, ça devient une preuve pour ceux qui ont dit que c'était strictement interdit qu'elles suivent ou qu'elles aillent visiter les tombes. Et pourquoi cela? Si c'est strictement interdit qu'elles suivent le convoi funèbre. Minbar Raoula, c'est interdit, à plus forte raison, ça va être interdit qu'elles vont quoi? Qu'elles vont visiter la tombe. Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, « Man sallaha ala janaza, falahu qira'at » Celui qui va prier sur un mort, il va avoir donc une grande récompense, le qira'at. Une montagne, comme on l'a expliqué, une grande récompense. وَمَنْ تَبِعَ الْجَنَازَ فَلَوْ قِرَاطَانِ Et celui ensuite qui va suivre la janaza, il va avoir deux grandes récompenses. Donc on voit ici l'importance de suivre le convoi final. Et le prophète seulement qu'il l'interdit ici pour les femmes. Il va dire là qu'il interdit donc qu'elle vienne visiter les tombes. Ensuite, ils ont rappelé également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bureyda عند مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا تُذَكِّرْ الْمَوْتِ وَفِي رِوَيَةِ تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ C'est-à-dire, je vous avais avant interdit de visiter les tombes, et maintenant, je vous l'ai permis. Pourquoi? الْعِلَّةِ Parce qu'elle va vous rappeler la mort. Parce qu'elle vous rappelle la mort. Donc, c'est un dhikr pour vous. Quand vous visitez les tombes, vous voyez les morts, subhanallah, ça vous rappelle que vous allez passer par là. Et donc, ça vous motive à vous préparer pour ce jour-là. يَوْمَ الْمَعَادِ وَيَوْمَ الْبَرْزَخِ قَبْلِ À la kulli hal, ils ont dit donc ici que c'était âme pour les hommes et pour les femmes. Donc, cette interdiction, elle a enlevé l'interdiction qui était précédente. Mais ceux qui ont dit que c'était interdit vont répondre à cela. Ils vont dire dans un premier temps que cette parole en réalité elle est khas li-rijal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'il avait enlevé l'âme. C'est-à-dire, il n'a pas dit kuntu la'amtukum. C'est-à-dire, je vous avais donc maudit par rapport à cela. Mais il a bien dit. C'est-à-dire que vous avez strictement interdit auparavant. Donc l'âme, ça reste pour ce qui est du premier hadith. Et la deuxième chose, pour qu'on dise que le hadith yamsah l'awwal, c'est-à-dire qu'il abroge le premier, il faut des preuves. Il faut des preuves par rapport à cela. Et on sait que pour ce qui est de al-nasr, c'est une étape que l'on va utiliser en dernier lieu. C'est-à-dire qu'avant cela, on va utiliser une autre étape et qui est le jam, qu'on a deux hadiths du prophète, ou alors d'un nas, que ce soit un verset, ou alors un hadith, et plus précisément ici, en l'occurrence, un hadith, deux hadiths, qui sont en apparence contradictoires, on va essayer d'abord de les rassembler. Et si on ne peut pas les rassembler, alors ensuite, on va voir s'il y en a un qui va annuler l'autre, qui va abroger l'autre. Ici, on peut les rassembler. Tout simplement, on les rassemble Pour ce qui est du premier, que l'interdiction qui était auparavant, c'était pour les hommes, et qu'ensuite, elle a été dissipée, cette interdiction. Mais pour ce qui est des femmes, l'arna, c'est-à-dire la malédiction, elle va rester. Et donc, on a rassemblé les deux hadiths. Taïb, il n'y a pas ici le ta'arub bainahuma. Et on a pas fait ici un nas, on a abrogé le premier hadith ou le deuxième hadith par rapport au premier hadith. C'est comme ça qu'ils ont répondu, les savants. Et donc, ça reste ici, al-'am yakhuss ar-rijal dun an-nisa. Ensuite, ils ont pris également un autre hadith, qui est un hadith rapporté par Anas, radiallahu ta'ala, anhu and al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une femme, marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mar'a, fakanat ala qabrin wa tabki, c'est-à-dire elle était donc auprès d'une tombe et elle pleurait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la femme? Elle lui a répondu, ilayka anni, c'est-à-dire, c'est-à-dire, éloigne-toi de moi. L'âme tout ça, c'est aussi la fille. C'est-à-dire, tu n'as pas été atteint de mon malheur à moi. Et ensuite, le prophète Sam, il est parti. Mais elle ne savait pas que c'était le prophète. Une fois qu'elle a su que c'était le prophète, elle est retournée vers lui. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète? Il lui a dit, innama sabru inda sumatil ula. C'est-à-dire, qu'en réalité, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est pas plus tard, un an après, ou alors bien plus tard, on a eu ce malheur. C'est au moment où il nous arrive, au moment du choc, c'est là qu'on doit faire preuve de quoi? De sabr, on doit faire preuve donc de patience. Et on sait que à sabr au niveau de la religion, il y a au moment de l'ittila, alors le wajib, à sabr, c'est-à-dire qu'on patiente, même si on n'a pas le riba, même si on n'est pas satisfait. Par contre, la satisfaction, à riba, c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc le premier niveau, ce qui est le plus haut, c'est ce que va atteindre vraiment le croyant au niveau de l'ittila, c'est à riba. À riba ou à sabr? Donc à riba, c'est-à-dire qu'il est satisfait. Il ne travaille là, parce qu'Allah a géré le prédestiné. Et s'il n'a pas cette capacité, alors, ce qui est en dessous, il y a un niveau en dessous, c'est le sort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, taqillah wasbiri. Mawa wajal istidal, pour ceux qui ont dit que c'est une preuve, donc que la femme avait le droit de visiter la tombe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas interdit de visiter cette tombe-là. Mais ceux qui ont rendu interdit la visite des femmes, ils ont répondu également à ce hadith. Dans le premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, taqillah, c'est-à-dire khan Allah a géré. Ça veut dire khan Allah. Ça veut dire fais ce qu'Allah Azzawajal lui t'a recommandé de faire, et il donne pas ce qu'Allah Azzawajal lui t'a interdit de faire. Et parmi ce qu'il a interdit, le hadith que le prophète lui-même il a cité, la'ana Allahu ou la'ana Rasul sallallahu alayhi wa sallam zuwarat al-qubur ou zahirat al-qubur. Ça y est. Et ensuite il a dit donc patience. Et la deuxième chose, c'est que cette femme-là, à ce moment-là, était déjà présente. Ça y est. Elle n'est pas venue donc spécialement pour visiter cette tombe, mais elle est venue parce qu'elle était atteinte d'un grand malheur. Ce qui l'a fait venir donc à la tombe. Donc ils ont répondu de cette façon-là. Taïeb, il y a encore d'autres. On va pas s'étaler sur toutes les preuves, Inch'Allah. La kulihal, pour ce qui est de la parole, qui est la plus forte. Ici, c'est le fait que la femme, elle n'a pas le droit de visiter les tombes. Et en plus de cela, si les gens, ils regardent le waqi'a, s'ils regardent vraiment ce qui se passe lorsque les femmes, elles visitent, on sait que la femme, elle est da'ifa. Da'ifa. Wa ba'afwa fi a'afifatir. C'est-à-dire, on sait que l'état de la femme, c'est ses faiblesses. Elle vient d'où? Elle vient donc de sa forte émotion. La femme, elle a une émotion qui est bien plus forte que l'homme. Et elle a une afifa, c'est-à-dire un côté émotionnel qui est bien plus fort. Voyez? Et donc, on sait qu'il arrive beaucoup de choses, c'est-à-dire, et plus précisément au niveau des tombes. Lorsque la femme, elle vient en tombe, on sait que c'est, en majeure partie, c'est elle qui va faire des gestes, comme ce qu'on appelle la niyaha fiddin. La niyaha qui va se traduire par des paroles. Qui va se traduire par des gestes qu'elles font, le fait de se déchirer les poches, le fait de s'arracher les joues, etc. C'est des choses qu'on trouve beaucoup chez les femmes de nos jours. D'ailleurs, vous pouvez le voir faire, Adam Sadat Zaraya. C'est également, dans l'état actuel, c'est également donc, le fait de couper et amener ce mal à la base. C'est pour ça donc que beaucoup de savants, et parmi Charles Samuel de Tenya, et beaucoup d'autres savants, Charles Femin, beaucoup de savants, ils ont dit donc, pour leur réagir, pour ce qui était de la femme, il est interdit que la femme elle visite donc les tombes. Naktafi biada, inshallah ta'ala. Wa nasallahu azza wa jal, al-ikhlas fil qawli wal amal. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.